Politeia, portrait d'élu de proximité.
Une émission réalisée par Véronique Leroux et Margot Bonnet.
À 36 ans, Marine Bruno se définit comme écolo, anarcho-féministe. Elle date sa prise de conscience du patriarcat au cours préparatoire, c'est dire. À 11 ans, elle lit Beauvoir, sans tout comprendre, et à 14, elle manifeste et s'engage dans le combat féministe. En 2019, après une dizaine d'années dans l'accompagnement social à Paris, elle s'installe en Finistère, où elle crée son cabinet de conseil en égalité, Egalus. Depuis 2020, elle est également élue au conseil municipal de sa commune, d'Irinon. Engagée, féministe, jusqu'au boutiste et insolente, ce sont les mots qu'elle a choisis pour se décrire en ouverture de cette belle rencontre.
Féministe, engagée, jusqu'au boutiste, profondément insolente.
Par lequel vous voulez commencer ?
Par féministe, évidemment. Je me définis comme ça aujourd'hui, je pense qu'on me connaît comme ça aujourd'hui, donc c'est important de l'assumer. Il y a des mots comme ça aujourd'hui en France qui sont des mots à double tranchant, c'est-à-dire que pour certains, ils vont être très valorisés et pour beaucoup d'autres, ils vont faire très peur. Et j'ai l'immense chance et l'immense honneur d'avoir sur moi posé plusieurs mots comme ça, anarchiste, féministe, écologiste, ça commence à faire beaucoup pour une seule petite femme rousse, mais bon, assumons. Moi, je suis féministe depuis longtemps, ça fait 22 ans que je suis engagée, j'ai 36 ans, donc j'ai fait ma première manif à l'âge de 14 ans. Si je devais définir le féminisme, le mien en tout cas, et celui que j'espère partager avec un nombre important de sœurs et quelques hommes pro-féministes qui s'engagent vraiment de la bonne manière et pour les bonnes raisons, moi je dirais que c'est la définition habituelle, toute simple, des personnes qui s'engagent pour que femmes et hommes, dans une société encore aujourd'hui malheureusement patriarcale, c'est-à-dire qui hiérarchise les sexes, à s'engager pour que cette hiérarchisation, elle disparaisse petit à petit. Et pour ça, nous sommes en lutte. Ce mot-là aussi, il fait peur, mais je pense que c'est important de l'assumer. Nous sommes en lutte parce que malheureusement, c'est un rapport de force que nous devons mettre en place à tout instant, face à nos institutions, à des personnes, à des groupes de personnes disposant de privilèges et qui n'ont pas du tout envie de partager ces privilèges, si on veut y rester dans une structuration qui hiérarchise les personnes entre elles. Moi, mon but ultime, c'est qu'il n'y ait plus de hiérarchie. Donc ça n'est évidemment ni un matriarcat, ni une inversion des choses, c'est de faire en sorte que tout le monde se retrouve au même niveau. On pourrait donc ajouter, en tout cas pour certaines personnes, utopiste, mais je ne crois pas l'être.
Alors le deuxième mot, ça serait lequel, si vous deviez en choisir un ?
Je crois que c'était militante, engagée ou quelque chose comme ça. Ben je crois que c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de femmes dans mon métier, dans mes engagements, dans mes rencontres autour du livre, qui me disent « je ne suis pas comme vous, je ne suis pas une vraie féministe parce que je ne vais pas en manif ». Je crois que les féministes des années 50 et 60, elles nous ont bien expliqué une chose qui est une leçon importante, c'est que en fait, le féminisme, ça commence dans sa cuisine. Et c'est aussi ce que m'ont transmis mes grands-parents notamment. Donc, mesdames, pas besoin d'aller en manif. Messieurs, pas besoin non plus d'aller en manif et de vous afficher. Le féminisme, l'engagement, en tout cas le militantisme sur ces sujets, c'est des choses du quotidien, c'est apprendre à dire non à certaines choses et notamment apprendre à dire non à une phrase que j'ai entendue toute ma vie et contre laquelle je me bats à tout instant, qui est le « c'est comme ça ». Ça, c'est insupportable et non, ça ne peut pas être comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je rénove une maison et je rencontre à longueur de temps des personnes à qui je dis non. non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous ne respectez pas votre engagement, donc je vous dis non, et on va devoir revenir à notre engagement initial. Et si je me permets de le faire dans tous les espaces de ma vie aujourd'hui, personnel, professionnel, amoureuse ou autre, c'est parce que j'ai la conscience absolue d'être légitime dans mes émotions, dans mes sentiments, dans ce que je suis en tant que personne. Et à partir du moment où je me sens légitime d'être cette personne, je suis forcément légitime à dire non à un moment donné et à poser ma limite. Et pour moi, ça, c'est un premier élément de militantisme, de lutte qui est important, c'est de s'autoriser à pouvoir dire non à un moment donné à quelque chose. C'est ce qui va conduire à la révolte, et on en a connu quelques-unes en France, évidemment. J'assume totalement le fait de ne pas être une héroïne et je revendique pas du tout ça. D'ailleurs, le terme héroïne du quotidien me questionne toujours concernant les femmes qui sauraient gérer leurs mille vies, jusqu'au burn-out bien sûr, mais c'est encore un autre sujet. Je pense être jusqu'au boutiste parce que je ne m'arrêterai jamais, je ne me tairai jamais. Et ça, je pense l'avoir prouvé à diverses reprises. Hein. Dans mon espace d'engagement, on subit énormément de violences concrètes, symboliques. On subit beaucoup de cyberharcèlement, de menaces et d'attaques. Il m'arrive de temps en temps de devoir quitter mon domicile, justement, du fait de menaces, par exemple, qui peuvent être très précises. Pour autant, je ne me tais pas. Vraiment, je ne me tairai jamais. C'est dans ce moment-là que je suis utile, à la fois pour moi-même et à la fois, je l'espère, pour d'autres.
Alors le dernier mot, c'était insolente. Alors il me semble que, voilà, on y vient, tranquillement.
Je n'accepte pas un état de fait si on ne sait pas m'expliquer ce qu'il y a derrière. J'aurais aimé, d'ailleurs, c'est un de mes grands regrets dans ma scolarité, c'est le moment où on m'a dit, j'imagine que c'était en CP, que le masculin l'emporte sur le féminin. J'aurais aimé, à l'époque, avoir le truc de demander à mon institutrice pourquoi et qu'elle puisse le justifier. Malheureusement, elle aurait été mise en grande difficulté et c'était une super instite, donc heureusement que je n'ai pas posé la question pour elle. Mais c'est une question qui me taraude encore aujourd'hui, hein, bien sûr, et même si on a la réponse avec nos chers amis de l'Académie française. Mais globalement, je pense que insolente, c'est un mot qui me définit bien pour les raisons expliquées précédemment, c'est-à-dire que je ne me tais pas, je ne laisse pas tomber, je ne lâche pas l'affaire, je ne me calme pas, je ne m'arrête pas. Et tant que j'ai quelque chose à dire, je continue à parler. Et tant que j'ai quelque chose à faire, je continue à le faire, quels que soient les risques encourus, officiels ou non, symboliques ou non, de quelque institution qu'ils proviennent. Et globalement, mon parcours prouve, j'ai envie de dire, à la fois heureusement et malheureusement, mon insolence absolue. Je pense que c'est un terme que les personnes qui me connaissent, aussi bien celles qui m'apprécient que mes détracteurs et détractrices, peuvent me reconnaître. Marine est vraiment une personne très insolente. Et à moi, après ça, de ne jamais dire désolée, parce que je ne suis pas.
Alors, aujourd'hui, si on se voit, c'est aussi pour parler d'un autre type d'engagement qui est celui au sein de votre commune. Alors, comment on peut être dans un conseil municipal et en même temps être insolente jusqu'au boutiste comment c'est possible, ça?
Je crois que c'est un outil formidable comme tant d'autres. J'ai refusé dans plusieurs moments de ma vie de m'engager en politique parce que ça n'était ni les bonnes personnes, ni les bons partis, puisque je ne reconnais encore aujourd'hui aucune capacité aux partis tels qu'ils existent de représenter ma pensée de féministe radicale et la façon dont je conçois le monde. En revanche, je suis comme toutes les personnes engagées, je cherche tous les endroits dans lesquels mon engagement peut être utile à d'autres et à mon espace, j'allais dire à ma communauté, mais on allait dire qu'en plus j'étais séparatiste. Donc bon, je vais me calmer là-dessus, même si je ne me calme pas, je l'ai dit précédemment. Donc au final, quand le futur maire de mon village, de Dirinon, m'a contacté, il m'a parlé de mon projet, mon envie d'avoir un espace de coworking chez nous. Donc il a su à la fois tenir ce discours-là et s'intéresser vraiment à ce qui pouvait m'intéresser et intéresser d'autres jeunes entrepreneurs et entrepreneuses de notre territoire. Et puis, il m'a dit cette chose qui me semblait importante aussi, c'est qu'il ne me contactait pas en tant que femme et en tant que féministe pour faire le nombre. Et il m'a interrogée aussi sur les raisons pour lesquelles tant de femmes ont si peur encore aujourd'hui d'intégrer ces espaces politiques qui sont des espaces de responsabilité et de pouvoir. Donc évidemment, aujourd'hui, en tant que féministe, insolente, par nature, par structure, je ne sais pas, et aussi par éducation, on pourrait se demander ce que je viens faire dans un conseil municipal. Ben, en fait, je viens faire la même chose que les autres, c'est-à-dire essayer de faire avancer des dossiers pour être utile dans un espace et dans un territoire à d'autres personnes. Je le dis parce que pour moi, cette notion d'être utile, elle est au cœur de ce qu'on fait, en fait, dans un conseil municipal sans étiquette. C'est important. Chacune et chacun est libre. Moi, je vote toujours très librement. Si je suis la seule de mon équipe à voter contre un projet ou à m'abstenir à un moment donné, pour des raisons qui tiennent à ma pensée, mon éthique, ma réflexion sur les choses et mon point de vue, je sais qu'à aucun moment je ne serai mise à mal parce qu'il y a un respect absolu des valeurs, des profils différents de chacune et de chacun. C'est ce qui a fait que j'ai accepté de m'engager dans cet espace-là. Et aussi que les conditions que j'ai posées à cet engagement ont été entendues et respectées. La première, c'était ma liberté de ton, évidemment. Je pense que j'étais déjà connue à l'époque pour mon insolence. Donc Guillaume ne venait pas me chercher en espérant me silencier, je pense, vraiment. Il avait bien compris que ça ne marcherait pas. Et puis, je crois qu'il s'est dit que ça pouvait être aussi une force d'avoir des personnes qui sont insolentes, dans le sens où être insolent, c'est pas être irrespectueux. C'est juste, à un moment donné, conserver son libre arbitre, prendre le temps de s'intéresser à des dossiers, de les fouiller. Moi, je ne suis pas la plus assidue de mon équipe municipale, que ce soit en conseil municipal ou dans des réunions autres. Je vais très peu dans les rencontres au village et autres, et ça fait partie des choses que j'avais expliquées dès le début. J'ai une entreprise aujourd'hui qui me fait, avec laquelle je suis mobile en France entière. Je travaille énormément, j'écris des livres, des articles, je retape une vieille maison. Et ma vie, en dehors de ça, c'est de pouvoir aller faire du bodyboard en Finistère Nord. Donc, globalement, je ne passerai pas ma vie dans mon village. Et je ne serai pas de celles qu'on peut appeler H24 et qui viendront toujours. En revanche, quand je dis oui, je viens, quand je dis je m'engage et quand je dis je suis avec toi sur ce sujet-là, c'est que je l'ai fouillé, j'ai lu les dossiers, je me suis fait un avis, que si je n'ai pas d'expertise dessus, parce qu'en tant que conseillère municipale, on n'a pas la nécessité d'être expert et experte sur tout, et c'est important de conserver l'humilité, bah je me suis renseignée auprès de personnes qui connaissent le sujet mieux que moi, et j'ai pu entendre aussi des voix dissidentes. Et je pense que je fais aussi partie des personnes qui vont s'intéresser au point de vue de celles et ceux qui n'ont pas voté pour notre équipe, par exemple, et de faire du lien avec mon insolence, évidemment, avec les collègues de l'équipe dite minoritaire. Si je déteste cette expression parce qu'ils sont tout aussi importants dans une équipe municipale que l'équipe dite majoritaire. Ils ont leurs expertises et autres. Et je trouve qu'à Dirinon, on arrive globalement à avancer ensemble. Et surtout, moi, je me sens très libre dans cet espace. Et je crois qu'il y a une dernière réalité, c'est que je ne vais jamais dans aucun espace dans lequel je risque d'être coincée. Donc quand je dis oui à un projet, quel qu'il soit, politique, professionnel, engagé ou autre, c'est que j'y ai longuement réfléchi. Je ne suis pas très spontanée sur tout ça. Et c'est aussi que j'ai tout de suite réfléchi à la façon dont je pourrais en sortir si à un moment donné, ce qui se passe va à l'encontre de mon éthique personnelle, de mon éthique engagée. Et donc, avant de dire oui à Guillaume à ce moment-là, je me suis renseignée sur la façon dont on pouvait, si on était élu, quitter un conseil municipal si à un moment donné, je ne me trouvais pas au niveau. Si on trouvait, si les personnes que je respectais dans cet espace-là ne me trouvaient pas au niveau, et je savais que Guillaume aurait le courage politique de me le dire, ou alors si à un moment donné j'étais plus utile, et aussi ça n'avait plus de sens aussi éthiquement, parce que j'ai un fil rouge dans ma vie qui est très clair, et je ne veux pas me trahir.
He
Guillaume fait partie des quelques hommes, et j'assume totalement le fait d'en trouver très peu qui arrivent à la cheville des femmes féministes. Il fait partie des quelques hommes qui osent se poser des questions sur des sujets, qui fait preuve d'humilité là-dessus, qui entend aussi l'insolence féministe et la nécessité vitale aujourd'hui de notre engagement. C'est pas quelqu'un que j'emmènerai en manif avec moi tous les 4 matins quand je fais mes petits happenings servante écarlate devant des églises où il y a la messe en latin. Cependant, je crois que profondément il se questionne sur ces sujets, il s'y intéresse. Donc, dans nos échanges, il me propose toujours de chausser les lunettes du genre, comme on dit chez les féministes, et de pouvoir aller réfléchir par les chiffres, par les études, par des réalités de terrain chez nous, à la façon dont le patriarcat, ça y est, le gros mot est dit, la façon dont cette hiérarchisation et donc ces inégalités entre femmes et hommes vient impacter à la fois la puissance municipale, à la fois la réalité du quotidien des Dirinonaises et Dirinonais, dont on n'a pas toujours conscience quand c'est pas notre pôle d'expertise. Je crois qu'il sait s'appuyer sur l'expertise de chacune et de chacun. Et puis je crois qu'il me fait confiance aussi sur quelque chose, c'est de lui dire quand je trouve que sur quelque chose là ça déconne. Et je peux lui dire tout aussi librement que je viens de le dire là. C'est quelqu'un qui se questionne beaucoup, donc là-dessus je le respecte aussi moi énormément. Et d'ailleurs, dire qu'on est une personne insolente, c'est aussi considérer qu'on ne peut s'entourer que de personnes qu'on trouve respectables sur divers points ou globalement, à la fois en tant que personne, en tant que professionnelle, en tant que politique. C'est ce qui fait que je préfère avoir peu de personnes, mais des personnes sur lesquelles je sais pouvoir compter aussi dans ma réflexion intellectuelle. Et Guillaume est quelqu'un qui m'aide à penser aujourd'hui, et qui, comment dire, avec qui on peut échanger aussi des frustrations de ce que c'est d'être engagé en politique, sans étiquette, je le redis, mais ce que c'est la puissance municipale. On nous parle toujours de ça, mais on ne nous parle jamais de ce qu'est la lenteur municipale. Et aujourd'hui, avec la crise Covid, qui a quand même marqué le début de nos mandats respectifs, pour les maires et les conseillères, conseillers municipaux de France depuis 2020, ce qui a marqué, c'est vraiment cette frustration avec le temps, avec une hiérarchisation des priorités qui a été totalement bouleversée, avec des réalités sociales, humaines aussi, qu'il a fallu traiter et auxquelles personne n'était totalement prêt, parce que ça agit comme un catalyseur des difficultés humaines et intersectionnelles, parce qu'on peut être à l'intersection de diverses difficultés, y compris quand on vit en ruralité, dans sa propre maison, avec un certain niveau de vie, comme c'est le cas, je le pense, de nombre de Dirinonaises et Dirinonais. Ça n'empêche pas d'avoir des soucis et d'avoir besoin d'avoir une, donc je redis ce terme, puissance municipale pour y répondre. Et donc la frustration du fait que tout est très long, évidemment, dans nos mandats, par rapport à ce qu'on peut imaginer dans un espace qui est celui aujourd'hui de ce qu'on appelle la Startup Nation, où on nous donne l'illusion depuis 2017 que si on veut, on peut. Ben nous, à Dirinon, on a bien compris que quand on veut, potentiellement, on peut. Et quand on veut, on peut essayer de tout faire pour que ce soit possible. Ça ne veut pas dire qu'à 100%, ça le sera. Petit exemple concernant l'engagement des femmes. J'avais pu échanger avec des femmes de divers âges à Dirinon sur le fait qu'on est quand même globalement dans une situation de désert médical sur certaines spécialités en Finistère, et notamment tout ce qui va concerner la prévention et le soin gynécologique des femmes de tous les âges. La médecine bikini ne nous aide pas, hein. En gros, c'est à partir du moment où vous êtes ménopausée, vous n'existez plus dans le monde du travail, mais aussi dans le monde du soin. Et donc j'ai pu échanger avec des femmes qui disaient qu'elles n'avaient pas vu un praticien ou une praticienne de cette spécialité depuis parfois 7 ans, 10 ans, 15 ans. Et pourtant, elles avaient des problématiques et des besoins. Donc finalement, on a pu faire venir un camion de prévention qui vient encore aujourd'hui assez régulièrement à Dirinon et dans lequel il peut y avoir des diagnostics et des orientations qui peuvent être faites sur divers sujets, tout ce qui va concerner les dents, les yeux et aussi tout ce qui va concerner les soins spécifiques à destination des femmes. Et je trouve ça intéressant qu'à un moment donné, Guillaume m'ait fait confiance pour faire remonter du terrain des choses sur des sujets qu'on évoque trop peu, d'autant qu'ils ont trait à l'intime et à l'intime genré, c'est-à-dire le corps des femmes.
Alors je vais rester aux femmes. À vous, en l'occurrence, dont vous êtes une femme jeune, jolie, intelligente, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, si, jolie, c'est moi qui le dis, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez souligné le fait que vous étiez rousse. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais je le sais, que vous n'étiez pas de Dirinon, vous n'êtes pas de, je crois que vous n'êtes même pas finistérienne, vous allez nous dire ça. Et alors, ça, c'est plutôt un atout ou c'est plutôt quelque chose qui a posé problème ou qui continue? Je ne sais pas, est-ce que ça, c'est un sujet dans votre quotidien?
Merci pour ces compliments. Donc en plus d'être peut-être tout ce que vous avez décrit, je suis aussi flattée qu'une autre femme ose en sororité me faire de tels compliments, me dire de telles choses que je sais sincères par ailleurs. Pour moi, c'est déjà un premier élément de sororité qui est extrêmement important. La sororité, ça commence juste en se disant des choses comme ça entre femmes. Alors, si je reviens sur le fond de votre question, quand Guillaume m'a proposé de venir sur la liste, je lui ai dit que certainement, le fait que je ne sois pas d'Irinonaise de souche, que je sois, on va dire, jeune, que je sois entrepreneuse, que je sois rousse par ailleurs, ça allait être des éléments potentiels d'attaque. Bon, finalement, il n'y a pas eu énormément d'attaques, mais il y en a quand même eu, hein, évidemment, des questions sur ma légitimité au travers de tous ces éléments-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je retrouve globalement un peu partout. Maintenant, je crois qu'il y a une réalité et là-dessus, la politique, c'est un espace d'illustration absolument parfait ou ce qu'on pourrait considérer comme étant de la politique. Bah, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un vous agace, quelqu'un existe peut-être un petit peu trop, quelqu'un est un peu trop insolent, la tête qui dépasse du groupe et du rang, et bah, finalement, vous allez l'attaquer sur tous les éléments qui sont visibles de cette personne et tout ce que cette personne vient offrir. Or, moi, je fais partie des personnes qui n'hésitent jamais à prendre la parole sur quelque sujet que ce soit à partir du moment où je considère être légitime, donc à avoir une connaissance ou un intérêt pour un sujet, voire une expertise pour certains. Et donc dans ces moments-là, je le disais tout à l'heure, je ne me silencie pas. Donc de fait, il est facile de m'attaquer, parce que dès que vous prenez la parole, vous êtes vulnérabilisé par le fait que vous êtes visible. Et j'ai aucun problème à être visible. Donc je savais forcément que ça allait exister dans le débat, ça existait un petit peu. Je crois que Guillaume l'a géré de façon très tranquille, comme il le fait toujours. Il a pris ses choses, il les a jetées dans un coin et il a dit simplement qu'il l'avait choisi et que ça n'était pas pour rien. Et c'est le cas globalement dans tous les espaces de ma vie. Je constate... notamment sur ma couleur de cheveux, à quel point souvent ça fait réagir. Et je trouve ça très drôle, hein, que ce soit un peu comme les chats noirs qu'on a toujours plus de mal à faire adopter à l'heure actuelle dans des associations que les autres. C'est de rester sur ces vieilles superstitions. Moi, j'ai eu toutes les couleurs de cheveux dans ma vie, y compris bleu, rose, etc. Et le roux, c'est vraiment la couleur qui fait le plus réagir sur les réseaux sociaux ou autres. Quand les gens auront fini d'être sur un mode totalement abruti avec l'image de l'autre, ils s'arrêteront. Moi, entre-temps, je vais continuer à être rousse et à vivre très bien avec ça. Mon âge, il va évoluer, mais comme le dit très bien l'historienne des inégalités de santé Muriel Salles, les femmes sont par principe pathologiquement pathologiques, c'est-à-dire qu'à chaque décade de notre vie, nous sommes problématiques. À 20 ans, nous sommes frivoles. À 30 ans, nous voulons des gamins. À 40 ans, nous voulons nous occuper des gamins. À 50 ans, nous sommes, attention, c'est violent, périmés. Bon, je suis dans l'étape où apparemment, je voudrais des gosses. Après, il faudra que je m'occupe de mes gosses. Et puis après, je serai périmée. Dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose à dire par le simple fait que je suis une femme. Bon, aucun problème avec ça. Moi, je vis à la fois très bien et aussi mal que les autres femmes, le fait d'être une femme dans une société qui me hiérarchise avec des hommes, y compris parfois avec des hommes médiocres ou bien plus médiocres que moi, et qui les valorise bien plus par le simple fait que je suis une femme. Pour moi, en fait, quand la société en aura marre de ça, elle s'arrêtera et je l'aide autant que faire se peut en faisant ma part à ce que ça s'arrête, mais je ne vais pas changer ce que je suis. La seule chose qui changera avec le temps, c'est que je serai de moins en moins jeune, mais je serai toujours aussi jolie, pour reprendre vos mots, et je vous remercie pour ça. Je serai toujours rousse, je serai toujours une femme. Et là aussi, bah, je ne vais pas m'excuser, hein. Ça va. Merci. Hein. Merci à vous d'être agacée par ce que je suis. Ça me donne d'autant plus de force dans mon quotidien. Moi, je vais continuer à bien vivre tout ça, parce que j'ai décidé que ça ne serait pas un problème pour moi.
Merci beaucoup, Marine Bruno. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée en avril 2024.